Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence en ce vendredi 16 septembre. Et comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous intéresse tous, en tout cas avec la scolarisation à domicile ou l'école à la maison, vous appelez ça comme vous voulez, avec nos invités qui nous font le plaisir d'être en studio. Avec la loi sur le séparatisme votée l'an dernier, il est de plus en plus difficile de scolariser ses enfants chez soi. Est-ce que c'est justifié? Quels sont les contrôles et quelles solutions pour les parents qui refusent d'inscrire leurs enfants à l'école? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Marianne Kramer, cofondatrice du Nantes Collectif et membre du collectif de désobéissants enfance libre. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à vous. Bonjour. Juste à côté, Jalil Arfaoui, cofondateur lui aussi du Nantes Collectif et membre du collectif de désobéissants enfance libre. Bonjour à vous.
Bonjour et merci de nous recevoir.
Et j'ai le plaisir aussi de recevoir une voix que vous connaissez, vous commencez en tout cas à connaître sur Radio Présence, Patrick Coste, ancien proviseur de plusieurs lycées et établissements scolaires du côté de Toulouse et ancien conseiller technique du recteur. Bonjour à vous.
Bonjour.
La première chose que j'aimerais qu'on fasse, ça serait de définir l'école à la maison. Qu'est-ce que c'est, Marianne Kramer, l'école à la maison?
Alors, l'école à la maison, que l'on appelle officiellement l'instruction en famille, nous, on préfère l'appeler l'instruction hors école. C'est-à-dire qu'on est rarement en famille, en réalité. On est souvent en extérieur, on côtoie beaucoup de monde, etc. Et si je devais définir ça, c'est simplement des familles, des parents qui font le choix de faire un pas de côté et d'instruire eux-mêmes leurs enfants en dehors du cadre scolaire. Ça ne va pas plus loin que ça, c'est vraiment un choix de vie, un choix réfléchi, conscient, mûrement construit. Et c'est juste un pas de côté, parfois ponctuel, parfois pour une longue durée, par rapport au cadre scolaire.
Patrick Coste, vous êtes d'accord avec la définition de Marianne Kramer?
Tout à fait, je n'ai pas de commentaires particuliers, c'est une description d'un état de fait.
Jalil Arfaoui, vous scolarisez vos enfants à domicile. Racontez-moi un petit peu pourquoi vous avez décidé de faire ce choix. Quand est-ce que vous avez fait ce choix? Pourquoi c'est important pour vous?
Alors nous, de toute façon, on s'est toujours interrogé sur l'éducation qu'on voulait donner à nos enfants, et ce, avant même leur naissance. Et en particulier, on a commencé par affirmer notre volonté de faire toute leur éducation dans une école publique, républicaine, laïque, mixte, etc. Et puis ensuite, c'est à l'épreuve de la réalité des faits que les avis évoluent. Et on a commencé, nous, avec notre grande fille qui éprouvait un certain mal-être dans la maternelle publique dans laquelle elle était à l'époque et qui a, à l'époque, exprimé ce mal-être. Et donc, on a évolué vers une école Montessori. On est resté un certain nombre de temps comme ça avec nos deux filles en école Montessori. Et puis le confinement 2020 a fait évoluer, je crois, beaucoup de gens sur beaucoup de choses. Nous, on a eu la chance de passer plutôt un bon confinement dans des conditions qui étaient correctes. Et en fait, on a pris plaisir, nous, à avoir nos enfants avec nous, à pouvoir suivre leur instruction, à pouvoir découvrir et leur faire découvrir des choses. Et puis aussi à respecter le rythme de chacun. Pendant 3 mois, on n'a plus la course du matin, qui consiste entre 7h et 8h, à courir. Et puis ensuite, à partir de 16h30 jusqu'à 18h30, 19h, à courir. Et donc, cette période se semble bien passée pour nous. Et bien, contrairement à des parents qui, et je le respecte tout à fait, étaient très contents de retrouver cette fin de confinement et ce retour à l'école, et d'être enfin un peu tranquille, et je dis ça vraiment avec tout le respect pour ces parents-là. Nous, on fait partie des parents qui se sont dit, mais en fait, c'était bien. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle l'instruction en famille. Qu'est-ce que c'est? Donc, on s'est renseigné. On nous a justement fait rencontrer des gens. Et avant même de rentrer dans l'instruction en famille, on est rentré dans le réseau, qui est très riche en plus en Occitanie, de parents qui font l'instruction en famille. Donc on a posé plein de questions, on s'est renseigné, on a posé le pour et le contre. Et puis, jusqu'au jour où on a proposé à nos filles, en fait, de leur dire, vous savez, il y a une possibilité qui est différente de l'école, qui permet d'apprendre des choses quand même, qui est de faire l'instruction famille. Mais c'était une proposition. D'ailleurs, notre grande fille a choisi effectivement d'expérimenter l'instruction famille, quand notre petite a dit, mais moi, je veux faire mon entrée au CP à l'école. Et on a dit, très bien.
Vous avez respecté ce choix.
On a respecté ce choix, puisque c'est justement central dans la démarche. Et ce qui s'est donc passé, c'est que l'année dernière, notre petite fille, donc 7 ans, Nora, a passé une très bonne année scolaire. Ça s'est très bien passé dans sa classe. Ça s'est très bien passé avec son institutrice. Elle était très contente et son instructrice aussi. On n'a aucun problème. Et on revendique le fait qu'on n'a aucun problème. Par contre, en février-mars, elle a émis le souhait, clairement, répété, de dire bah, « Je voudrais faire comme ma grande sœur. L'année prochaine, je voudrais faire l'instruction en famille. Moi aussi, je veux tester. » Et on leur a toujours dit « Vous pouvez changer d'avis, dans un sens comme dans l'autre. Ma grande, notre grande, sait qu'elle peut retourner à l'école, quand elle veut. » Alors, c'est un peu moins vrai avec la nouvelle loi, et on pourra en reparler. Mais du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un rectorat qui nous refuse l'instruction pour notre seconde fille, ce qui est assez ironique, puisque si on avait justement forcé les choses il y a un an, eh ben en fait on serait dans ce qu'on appelle le plein droit. Voilà comment est-ce qu'on est arrivé en tout cas à l'instruction en famille.
Patrick Coste, je vous vois acquiescer de la tête sur certains arguments qui sont développés par Gilles Larfaoui. Vous comprenez cette envie des familles d'être plus proches de leurs enfants et de s'occuper de la partie de l'instruction?
Avant de vous répondre directement sur la question de l'envie et du bien fondé de cette pratique, je crois que à travers les propos de monsieur, bon, il faut pour les auditeurs rappeler un certain nombre de définitions cadres par rapport à cette possibilité. On sait que la République est très attachée au principe de l'obligation scolaire. Et c'est vraiment un enjeu dans le principe qui est un enjeu républicain de cohésion collective. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans l'époque que nous traversons, les intentions de construire et de donner de la consistance à la communauté devient un enjeu de plus en plus essentiel. Donc c'est quand même un postulat républicain que cette obligation scolaire. Mais
je me permets de vous interrompre juste un instant. L'obligation n'est pas scolaire, l'obligation concerne l'instruction. Oui, il n'y a pas d'obligation de scolarisation en France, il y a une obligation d'instruction. Pour le reste, j'entends vos arguments, mais je tenais à préciser ce détail important.
J'y venais, c'est-à-dire que j'allais apporter la nuance dans les définitions. L'obligation de suivre une scolarité, un apprentissage, n'est pas une obligation de l'école. C'est une obligation d'instruction. Et donc, entre l'école et l'éducation à la famille, il y a un droit, une fenêtre qui est ouverte et qui permet cette possibilité-là. Voilà. Ensuite, ça a été évoqué par allusion par monsieur, il y a eu une évolution de la loi par rapport à cette possibilité. Dans une situation antérieure à un décret de 2022, cette possibilité s'engageait sur la base d'une déclaration de la famille. Et derrière cette déclaration, une fois que le processus était engagé, l'État gardait une fonction qui était celle celui d'un contrôle de la progression sur des référentiels, qui sont des référentiels de programmes nationaux. Et s'il y avait un dysfonctionnement observé par rapport à cette évolution, il y a des décisions qui pouvaient être prises. Mais il y avait un respect de l'intention de départ de par la notion du déclaratif. On a changé de cap par rapport à cela, puisque à partir des lois autour du séparatisme, il a été défini, stipulé, une demande d'autorisation. Mmh. Et une demande d'autorisation sur la base d'un certain nombre de critères qui sont à respecter. Alors, je les cite, mmh. parce que c'est quand même de l'information en dur. Le premier critère est sous condition de handicap ou état de santé. Deuxième critère, activité sportive ou artistique. Troisièmement, éloignement géographique, itinérance. Et quatrièmement, situation propre à l'enfant. Voilà. Et donc, on est susceptible dans le contexte actuel, si on demande une autorisation et si on ne rentre pas dans ces quatre critères, d'être débouté de la demande. Mmh. C'est ce qu'a indiqué monsieur.
Marianne Kramer, ces exceptions, si je puis dire, pour vous, elles ne sont pas assez complètes.
Sur le principe du passage au régime d'autorisation, je ne sais pas si on peut enchaîner dès maintenant là-dessus, mais la manière dont les choses se sont déroulées sont particulièrement intéressantes. Pour partir à la genèse de l'histoire, il faut démarrer au discours du président Macron le 2 octobre 2020 au Mureaux. Il a fait un discours à la nation sur le sujet du terrorisme, du séparatisme, du radicalisme. Et il a enchaîné directement avec « c'est pour cette raison qu'il faut interdire l'école à la maison ». Il a directement, tout le monde est tombé des nues, il a directement fait un lien entre séparatisme, radicalisme et instruction en famille.
Vous comprenez quand même qu'il y a des cas particuliers de personnes ou de familles qui font l'école à la maison qui peuvent être concernées par ces cas de radicalisme.
Alors, je vais poursuivre un peu l'histoire et vous allez voir que finalement, ce n'est pas tellement le cas. En réalité, du coup, tout le monde s'est engouffré dans cette brèche. On a eu plein de discours dans les médias, des politiques, etc., qui nous ont expliqué, qui nous ont parlé de fantômes de la République, d'enfants, endoctrinés dans des dérives sectaires, ou, etc.
Hors radar.
Et d'enfants en dehors des radars de la République. Donc évidemment, toutes les familles en instruction en famille se sont posées des questions. On demandait, mais c'est qui ces enfants? Nous, dans notre réseau, on ne les connaît pas. Les associations nationales se sont posées des questions. On demandait des chiffres en disant, mais pourquoi, sur quoi vous appuyez pour parler de ça? Les chiffres ne sont jamais venus. Il y a des rapports de l'éducation nationale, de la DGSCO, du ministère de l'éducation nationale, qui sont publiés tous les deux ans sur l'instruction en famille. Ces rapports, ils ont été demandés, y compris par les parlementaires, y compris par les sénateurs, y compris évidemment par les associations de défense de l'instruction en famille. Jamais ces rapports ne sont venus, jusqu'au vote de la loi et jusqu'au fait que le Conseil constitutionnel ait validé sa constitutionnalité. Trois semaines après, je crois, le vote de la loi, ces rapports sont tombés. Et bizarrement, ces rapports, qui nous ont donc été cachés, jusqu'au vote de la loi. En fait, dans ces rapports, il est indiqué qu'il n'y a absolument aucun lien entre instruction en famille et séparatisme et radicalisme. Aucun lien. Donc c'est à côté de la plaque, en fait.
Patrick Coste, on a mis tout le monde dans le même panier.
C'est-à-dire
qu'entre les possibles problèmes de séparatisme, d'où cette loi qui a été promulguée l'an dernier, et l'école à la maison, l'instruction en famille, on a voulu tout rassembler.
Je crois que, si vous voulez, par rapport à ce point-là, les observations objectives du radicalisme en termes d'éducation à la maison, on a effectivement pas d'études, de rapports qui nous permettent d'en attester, très clairement. Donc je m'accorde tout à fait au commentaire qui est fait. Maintenant, par hypothèse, on sait très bien qu'il y a des foyers de radicalisation où il y a un certain nombre de jeunes qui sont sortis du système scolaire. Et ça remonte d'ailleurs à très loin, parce que j'ai travaillé en zone sensible à Bagneux, pour être tout à fait précis, où déjà à l'époque, il y avait des formations qui étaient assurées par des imams dans le secteur. Et donc, par conséquent, ce phénomène, par hypothèse, on peut dire qu'il existait. Et compte tenu des décisions qui ont été prises par rapport à la loi sur la séparation, qui est prise dans un débat collectif très, très tendu, effectivement, cette décision de l'éducation à la maison, il y a eu un effet de dévers, en quelque sorte, par rapport à un certain nombre de familles qui n'étaient pas dans cette situation, mais qui sont prises par rapport à cette décision qui est liée à ce phénomène politique.
Alors, est-ce que je peux vous interroger ? Moi, je voudrais avoir votre retour d'expérience sur un point que vous précisez. Vous dites qu'il y avait, voilà, vous avez vu dans votre carrière des foyers de radicalisme avec des enfants qui sont sortis du système scolaire. Est-ce que ces enfants que vous avez vus étaient déclarés instruits en famille ?
Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. J'étais sur un territoire. Et donc, nous savions à ce moment-là que ce phénomène existait au niveau local, mais le suivi institutionnel de cette situation, à ce moment-là, dans le statut que j'étais, où j'étais, je ne sais pas comment c'était accompagné.
Alors, en tout cas, nous, le raisonnement qu'on porte, juste pour m'expliquer ma question, le raisonnement qu'on pose, nous, et qu'on porte, il est de dire que ces familles-là, elles n'étaient pas instruites en famille. Sinon, elles auraient des contrôles une fois par an. Et en fait, elles sont très faciles à repérer. Et très faciles, en fait, d'agir concrètement sur les situations.
Donc, quand bien même si elles étaient déclarées en instruction en famille, je suis un peu gênée par la manière dont vous amenez les choses, dans le sens où, d'un côté, vous admettez comme nous qu'il n'existe pas d'études qui permettent d'attester qu'il y a un lien. Mmh. Et juste derrière, vous dites, par hypothèse, on sait très bien que... J'ai du mal à accepter une tournure de phrase où on met d'un côté par hypothèse et d'autre part, on sait très bien que... Alors par contre, l'exemple que vous donnez à Bagneux, moi ça me fait penser à M. Darmanin, qui était alors ministre de l'Intérieur à ce moment-là, et qui nous racontait, en parlant, non pas en tant que ministre, mais en tant que maire de Tourcoing, que c'était un peu comme à Bagneux, qu'il a parlé de deux écoles hors contrat, où des enfants étaient déclarés en IEF, comme Jalil pose la question, ils étaient déclarés en IEF et ils étaient embrigadés dans des établissements clandestins, extrémistes, etc. Très bien. Mais si on parle de quoi ? On parle de 15 enfants ? On
légifère. Mais moi, j'aimerais avoir les noms.
On légifère pour 15 enfants et pour des exemples précis, alors que les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, lui-même, indique que les familles qui posent problème suite au contrôle, c'est 0,2. Ouais, moins de 0,2, 0,17.
Allez, 0,2.
0,2% de familles qui posent problème. Comment on peut légiférer sur des cas particuliers tout en admettant qu'il n'y a pas d'études générales, et pourtant les études ont été faites, y compris par les ministères, qui montrent le lien, quoi.
Je reviens sur le raisonnement que j'ai tenu de façon à contourner la pétition de principe qui m'a été renvoyée. Si vous voulez, il s'agit d'avoir une honnêteté du propos par rapport à ce que je peux en dire. Donc effectivement, il n'y a pas de rapport qui serait de l'ordre d'une étude informée et sociologique de grande échelle par rapport à ce qui c'est cette question de l'école à la maison et du radicalisme, et c'est un fait. Hein. Ensuite, deuxième niveau d'intervention, ce sont des observations empiriques que j'ai pu faire à un moment de mon parcours, et donc il y a deux niveaux là de réflexion. Mais quoi qu'il en soit, je crois que les auditeurs connaissent suffisamment la société pour savoir qu'il y a des phénomènes de radicalisation et que l'hypothèse est tenable par rapport à cela, et que donc que l'État, dans le contexte et des positions de prévention par rapport à cette hypothèse, on va dire que ça n'est pas complètement déplacé en termes de décision politique d'État.
Si l'hypothèse paraît raisonnable, nous pensons que la moindre des choses, avant de légiférer, c'est de mener cette étude qui manque.
Ou de la
tout
diffuser,
simplement.
Puisqu'elle existe déjà.
Ou si elle existe déjà, de la diffuser, mais si elle n'est pas assez complète. Si l'étude, pour l'instant, les rapports officiels montrent l'absence de lien. Donc, si ces rapports sont incomplets, eh bien qu'on les complète. Il n'y a pas d'urgence. On a mis 2 ans à faire passer cette loi. Peut-être qu'on peut prendre une année de plus, en amont, bien sûr, et faire les études nécessaires. Qu'on sache concrètement à quoi on s'attaque, ne serait-ce que par simple souci d'efficacité. Donc nous, on a effectivement un problème avec cette hypothèse qui est posée et sur laquelle on légifère et sur laquelle on supprime des libertés. J'ajoute que même s'il y avait effectivement des phénomènes de radicalisation, je voudrais insister là-dessus, Il faut connaître leur ampleur. Et surtout, il faut bien mesurer si ces phénomènes-là sont liés à des gens qui pratiquent l'instruction en famille de manière déclarée et visible. Parce que ceux qui ne la déclaraient pas vont pas se mettre à demander des dossiers d'autorisation. Donc on va avoir un effet dans lequel ceux qui passaient à travers les filtres, les mailles, continuent de passer à travers les mailles. Et par contre, ceux qui étaient dans une approche claire, s'ouvrant au contrôle, visible, etc., c'est sur cela qu'on tape. Donc il y a un souci. Mmh. C'est comme si on disait, il y a des gens qui conduisent n'importe comment, on va donc interdire les voitures. On en est là.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. On voit bien que vous n'êtes pas d'accord, mais on va continuer le débat juste après. Ça va permettre aussi aux auditeurs de bien intégrer tout ce qui vient d'être dit pendant cette première partie de l'émission. On écoute Tout au bout du monde de Tibbs.
Je t'ai connu avant l'enfer. Je t'ai connu, t'étais le roi. Bien avant les cernes et la noirceur. Des enfants de la nuit qui font n'importe quoi. Souviens-toi quand tu faisais rire les filles. Souviens-toi comment t'étais beau et fier. Avant que ça invite une aiguille. Vois ce qu'elle a fait à mon frère. Tout au bout du monde. Au bord du vide je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes. Je te les donne si t'as besoin de moi. Tout au bout du monde. Au bord du vide je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes. De moi. Je peux mentir au monde entier, mais face à moi, t'es pas de taille. Je n'ai pas peur de tes secrets, de tes blessures, de tes entailles. Regarde-nous sur la photo, quand on trinquait à l'amitié. Aucun trucage de rien de faux, viens qu'on retourne dans le passé. Tout au bout du monde. Au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Je te tendrai les bras. De moi. Et sur ta peau abîmée, j'effacerai tes blessures, c'est ma bataille. Et je marcherai à tes côtés, où que tu sois, où que tu ailles. Tout au bout du monde, au bord du vide, tu te tendrais les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi.
Église, Timothée Rouvière.
Et je suis toujours en compagnie de Marianne Kramer, cofondatrice du Nonce Collectif et membre du collectif de désobéissants Enfance Libre. Juste à côté, Jalil Arfaoui, cofondateur lui aussi du Nonce Collectif et membre du collectif de désobéissants Enfance Libre. Et Patrick Coste, ancien proviseur de plusieurs établissements scolaires à Toulouse et ancien conseiller technique du recteur. J'aimerais qu'on pose cette question qu'on n'a pas du tout posée en début d'émission, même si Jalil Arfaoui nous a un petit peu livré son expérience. Pourquoi décider de scolariser ses enfants à domicile? Parce qu'on ne fait pas confiance à l'éducation nationale ou c'est trop fort comme terme, Marianne Kramer?
Ouh, la question démarre un peu fort. Non, on va commencer par poser le contexte. L'an dernier, il y avait grosso modo entre 60 et 70 000 familles qui pratiquaient l'IEF en France. C'est un chiffre qui a augmenté au cours des dernières années. Bon, cette année, on a une chute assez importante du nombre de familles voulant pratiquer l'IEF du fait de la nouvelle loi. Mais grosso modo, voilà, on a des effectifs qui sont assez faibles hein, au regard de tous les enfants en âge d'instruction obligatoire. C'est grosso modo 0,4% des enfants. Donc effectivement, on parle quand même d'une, d'une minorité. Il n'empêche que c'est une question qui peut concerner tout le monde, tout enfant, à un moment ou un autre de sa scolarité, pour diverses raisons. Ensuite, pourquoi les familles pratiquent l'instruction en famille ? Il y a une association nationale qui s'appelle Félicia, qui a mené une grande enquête auprès de plus de 3000 familles, et qui est assez intéressante parce qu'elle a permis de dresser une sorte de portrait de toute cette communauté IEF française. On se rend compte que les motivations des parents qui choisissent d'instruire leurs enfants, elles sont vraiment diverses. L'une des premières motivations, et on peut la comprendre facilement, je crois que c'est à peu près la moitié des 50% des familles qui sont concernées, c'est des motifs médicaux ou des motifs de santé. Tout simplement, il y a des questions de maladies graves ou même de troubles, disons les troubles 10, là, la dyslexie, dysphasie, etc., ou de précocité, ou de problématiques, en tout cas liées aux apprentissages, qui font que la prise en charge à l'école ne se passe pas toujours dans de bonnes conditions. Il y a aussi toutes les problématiques de phobie scolaire et de harcèlement. On sait qu'en France, on tourne autour de 720 000 enfants victimes de harcèlement par an dans les établissements scolaires. Ce sont les chiffres du ministère. Donc c'est énorme. Pour ces enfants qui sont harcelés, c'est parfois une planche de salut, un filet de sécurité, l'IEF pour un temps ou pour plus longtemps. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, il y a aussi d'autres parents qui font ce choix parce qu'ils vivent une partie de l'année à l'étranger ou parce qu'ils ont un mode de vie d'itinérance. Et dans ce cas-là, scolariser son enfant, c'est quand même beaucoup plus compliqué. En tout cas de manière stable, dans un établissement où il va pouvoir construire quelque chose. Et la dernière raison, moi je fais partie de ces gens-là, Jalil l'a expliqué aussi, c'est vraiment pour apporter en quelque sorte une instruction plus personnalisée à son enfant. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans une sorte de projet de vie où on décide, par exemple, de respecter son rythme, de respecter son rythme à la fois biologique et rythme d'apprentissage aussi, c'est-à-dire de laisser les enfants apprendre un peu comme ils veulent et quand ils le veulent, puisqu'on sait aussi que là, on le sait, et il y a même y a énormément d'études qui le démontrent, que finalement, la manière dont on apprend le mieux, c'est quand on le fait par plaisir. Ça, c'est aussi un argument. Après, il y a aussi des parents qui veulent mettre en place des pédagogies alternatives, mais qui n'ont pas forcément financièrement accès à des écoles alternatives qui coûtent cher. Pédagogie Montessori, pédagogie Steiner ou autre, et de faire l'école à la maison, c'est vraiment une manière d'avoir accès à tout ça. Voilà, le panel est vraiment très divers en tout cas.
Patrick Coste, je vous vois beaucoup noter de choses. Vous comprenez ces arguments ?
Je les comprends en grande partie. D'abord, sur les critères là, de décision des familles par rapport à l'éducation à la maison, bon, il y en a trois là, qui sont proposés, c'est-à-dire santé, les déplacements à l'étranger. Je fais un lien avec la loi en cours. Ce sont deux critères qui sont prévus dans le cadre de la loi telle qu'elle a été énoncée. Ensuite, il y a aussi le critère d'un projet pédagogique ou un projet spécifique qui est prévu aussi dans le cadre de la loi. Mais on voit que par rapport à la demande qui a été exprimée sur ce point-là, il y a eu un certain nombre de rejets des demandes qui se sont exprimées. Voilà. Alors ensuite, sur le fond, est-ce un bien, est-ce un mal par rapport à cette éducation à la maison ? Bon, je crois que là, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre vis-à-vis de cette question-là. Donc, partons de mes observations et de mon expérience pour essayer d'y réfléchir. J'ai vu effectivement des jeunes, par exemple, qui traversaient des problèmes de phobie. Et l'éducation à la maison a été une parenthèse souhaitable par rapport à leur parcours. Parce que forcer un symptôme d'angoisse sur un principe qui serait le principe républicain de tous à l'école, là, c'est développer la possibilité d'une souffrance. Et là, il s'agit de faire le bon choix entre l'importance de cette souffrance et puis l'importance des principes républicains. Voilà. Il y a également des jeunes qui, par exemple, sont sur des circuits de vie qui sont des circuits nomades. Il n'y a pas la bonne alternative et qu'ils puissent avoir une éducation à la maison parce que de toute façon, les conditions pratiques dans lesquelles ils sont ne permettent pas de faire autrement. Donc là, il y a des bonnes raisons. Mmh. Hein. Ça, ce seraient les arguments pour.
Oui, et les contre maintenant.
Alors maintenant, dans mes observations, côté de l'institutionnel qui a pu voir ensuite, j'ai vu des jeunes qui retournaient à l'école.
Après avoir suivi l'instruction en famille.
Retour à l'école, après l'éducation à la maison. Et là, il y a des choses qui se passent bien. Il y a des articulations qui sont tout à fait fluides par rapport à ce retour. D'autres fois, c'est plus difficile. C'est plus difficile, bon, pour des raisons que tout le monde peut comprendre. C'est que quand on est dans une classe et dans un collectif, on vit des frustrations, des rapports à la règle, des pressions du collectif que l'on n'a pas à la maison. Donc, évidemment, on pourrait presque dire que l'écosystème du jeune qui a vécu à la maison et qui revient dans une structure institutionnelle, il y a un cap à passer qui est considérable. Deuxième exemple de difficulté, c'est que ensuite il y a des objectifs de réussite, des réussites sur des obtentions de diplômes, et donc il faut que les lignes de progression et d'apprentissage aient été dans les axes qui permettent ces préparations pour ces réussites. Et là, sur à la fois, et je sors un peu de sujet, sur des pratiques de pédagogie parallèle ou d'éducation à la maison, j'ai vu des soudures entre les demandes qui ont été compliquées, voire qui ont occasionné des difficultés structurelles par rapport au parcours de l'élève.
Jaïl Lerfaoui, vous n'êtes pas totalement d'accord, hein ?
Non, pas totalement. Surtout sur les arguments contre. D'ores et déjà, d'emblée, sans rentrer dans le détail, je voudrais juste poser un truc très simple. Vous me dites, j'ai vu des jeunes pour qui ça se passe bien, et puis j'ai vu des jeunes pour qui ça se passe moins bien. Mmh. J'ai envie de vous répondre, moi aussi. J'ai vu plein de jeunes qui sont allés à l'école pour qui ça se passe bien, et j'en ai vu plein pour qui ça se passe pas bien du tout. Donc voilà, juste on pose cette idée de toute façon. Et d'ailleurs, pour être clair, nous on ne prône pas l'instruction en famille pour tout le monde. Nous ne pensons pas que toutes les familles devraient s'y mettre. Nous ne pensons même pas que ce soit bon pour toutes les familles et pour tous les enfants. Ça nécessite tout un tas de contextes qu'on pourra approfondir. Par contre, nous, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est quelque part une laïcité éducative. Que chacun puisse, avec ses convictions, mettre en place l'instruction qui lui paraît convenir à son enfant. Avec le risque que ce soit une erreur. Mais on l'intègre, ce risque. Et peut-être que si on met son enfant à l'école et qu'il se retrouve harcelé ou avec une phobie ou avec des choses qui ne lui conviennent pas et que l'école a apporté, peut-être ça aura été une erreur. Et peut-être que si on met son enfant en instruction en famille en pensant que c'est une bonne idée, et bien peut-être que c'est une erreur. Moi, j'affirme mon droit à l'erreur là-dessus. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je veux pouvoir remettre mon enfant à l'école, le ressortir si ça ne va pas, et retrouver cette perméabilité que nous avions auparavant. Donc, sans rentrer dans le détail, on va y venir après, mais déjà sur le principe, qu'on puisse dire, laissons quelque part apparaître quelque part une biodiversité éducative.
Ouais, et je me permets juste de reprendre vos points, Monsieur Coste, vos points contre, bien évidemment. Vous parlez de jeunes qui retournent à l'école, donc, et pour lesquels parfois c'est difficile, et les arguments dont vous parlez, c'est notamment cette frustration, cette difficulté du rapport à la règle et de la contrainte du collectif. J'ai envie de vous dire, les enfants qui font l'école à la maison, souvent, l'un de leurs dénominateurs communs, je renie pas, et je suis d'accord avec Jaïl, je ne nie pas le fait que pour certains c'est difficile, comme c'est difficile pour des enfants qui sont scolarisés. Mais il n'empêche que les enfants qui font l'école à la maison ont tous tendance à acquérir un grand degré d'autonomie, et ça, je pense que personne ne peut le nier. Et l'autonomie, c'est généralement une grande qualité dans tous les domaines de la vie d'adulte, y compris quand on a besoin de s'adapter à des nouveaux contextes. Et en l'occurrence, le nouveau contexte de l'école, qui est un environnement qui est extrêmement normé, extrêmement cadré, avec beaucoup de contraintes, comme vous avez dit, comment des enfants qui viennent d'un milieu très différent peuvent s'y adapter, parce qu'ils sont plus autonomes, et j'ai envie d'ajouter, parce qu'ils l'ont choisi. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, c'était parce qu'ils l'avaient choisi. Et une scolarisation choisie, ça n'a absolument rien à voir avec une scolarisation imposée. Et du coup, à partir du moment où c'est choisi, les parents, avec les enfants, ont tout le loisir de s'y préparer correctement. Ça me fait penser à quelque chose qu'on dit souvent, l'instruction en famille, l'école à la maison, c'est pas un choix par défaut, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit pendant des mois, des années, parfois, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jalil, avant même la naissance de son enfant, et donc les parents sont hyper investis. Ça signifie que quand il y a un retour à l'école qui se fait, ou qui se prévoit, ils s'organisent. Et du fait de ces qualités-là, c'est-à-dire vraiment l'investissement du milieu familial, l'autonomie acquise des enfants et le choix libre, globalement, ça se passe bien. Et pour illustrer ça, il y a encore quelques chiffres qui viennent de la grande enquête de Félicia, de l'association nationale Félicia. Il y a quand même énormément d'enfants qui viennent de l'école à la maison et qui réintègrent le milieu scolaire au lycée. Il ne reste plus que 2% des enfants en IEF. C'est-à-dire 98% des enfants qui ont fait l'IEF retournent à l'école quand ils sont au lycée. Je ne pense pas que ça soit difficile, comme vous disiez, pour 98% de ces enfants, même s'il y a bien sûr des exceptions, forcément.
Il y a un autre point sur lequel je voulais rebondir, que vous avez abordé, Monsieur Coste, si je peux me permettre. C'est un point qui revient souvent et avec lequel j'ai une difficulté, c'est de dire... l'école, c'est bien parce que ça apporte des contraintes, ça forme l'enfant à la frustration, ça éduque au rapport aux règles, etc. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Et donc, du coup, je voudrais réaffirmer ici que nos enfants ne sont pas, en tout cas, tous ceux que je connais, à la fois les miens, mais ceux de tout le réseau, je n'en connais pas, qui sont sans frustration, sans contraintes et sans règles. D'abord parce qu'il y a évidemment les règles de vie qu'on impose tous à la maison. Et donc, chaque famille définit ses règles. Mais elles existent là, il y a un cadre. Et moi, personnellement, mes filles expérimentent régulièrement la frustration. Il n'y a pas de problème avec ça. Et encore plus dans le réseau, dans lequel on partage tout un tas d'activités, tout un tas d'ateliers, tout un tas de choses. Plus rajouter à tout cela les règles qui, de toute façon, s'imposent à tous dans la société. La façon avec laquelle on ne peut pas traverser un feu rouge quand il est rouge. Donc, des règles et de la frustration, elles en ont en permanence là-dessus, pas d'inquiétude.
Alors, bon, beaucoup de points là par rapport aux arguments qui sont exprimés. D'abord, monsieur avait indiqué que s'il y a des difficultés de parcours des élèves, il y en a d'autres. Et donc, à partir de là, il y a une sorte d'amalgame de la difficulté que l'on peut penser. Sauf que quand il y a des difficultés, on peut faire des analyses des causes. Et donc, dans les témoignages j'indique, on peut observer que la cause était effectivement le parcours d'une scolarité qui était à la marge, une marginalité.
La cause de quoi, pardon ? La cause de la difficulté ?
Oui, la cause de la difficulté qui fait qu'on revient dans un contexte et dans un transfert de réalité qui n'est pas le même et qui est facteur effectivement de problématiques. Et qui peuvent atteindre des points de non-retour par rapport à la situation. Et ça, je peux dire que je l'ai vu. Je voudrais poursuivre. Donc, par conséquent, en termes de parcours, je pense qu'il faut avoir une rationalité de l'analyse de la façon dont un processus éducatif se fait. Et... Ensuite, en ce qui concerne la question de l'autonomie qui a été exprimée, je crois qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas nouer ensemble la notion de choix et celle d'autonomie. Parce qu'il peut y avoir une tendance qui consiste à penser qu'à partir du moment où on est sur une décision de soi-même, ça serait de l'autonomie. L'autonomie au sens strict, c'est une loi de soi-même. Et cette loi de soi-même, elle se construit aussi dans un parcours. Et elle se construit dans un parcours qui est un parcours d'adaptation des significations que l'on va mettre en œuvre par rapport à des réalités. Voilà. Et l'autonomie, ça n'est pas simplement un point psychologique chez l'individu, mais c'est toute une construction d'ensemble avec les réalités. On peut donc comprendre que si on est dans une réalité qui est une réalité qui est décalée, eh bien la formation de l'autonomie peut se construire de manière différente à partir du moment où on revient dans des réalités où il convient d'adapter son autonomie à une autre situation.
Mais du coup, c'est quoi le décalage? Quelle réalité est décalée? Est-ce que ce n'est pas l'école qui est un petit peu décalée de la vraie vie? Je me permets de rebondir là-dessus, parce que c'est des mots forts quand même.
Je termine sur cette question de l'autonomie. Ensuite, si vous voulez, par rapport à la formation de l'autonomie, on a quand même un certain nombre d'expertises en psychologie qui ont permis d'essayer de comprendre comment... Elle se construisait. Bon, mais si on prend les théories classiques de la psychologie du développement, eh bien, il faut bien se dire quand même qu'elles sont comprises comme toujours avec un effet mimétique en miroir par rapport à autrui. Bon. Et que donc, si par conséquent, on modifie finalement les contextes de ce que c'est que autrui, les effets de construction en miroir de cette autonomie, psychologiquement, ne se fabriqueront pas, ne se construiront pas de la même façon. On va dire que ça, si vous voulez, c'est de la psychologie de base. Hein. Mmh. Ensuite, qu'il y ait, pour répondre à madame, qu'il y ait, on va dire, des anomalies qui sont typiques de la situation institutionnelle et de l'école, et que donc il y ait de l'anormal dans ce qui s'y passe, c'est vrai. Mais ce n'est pas au nom de cet anormal-là qu'on doit rejeter l'eau du bain avec le bébé, parce que, je veux dire, ce sont des réalités, on va dire, qui doivent être abordées dans leur globalité, et de l'anormalité, on va en trouver d'un côté, et on va en trouver de l'autre. Hein. Mais la notion d'anormalité en elle-même ne définit pas elle seule l'impasse que représenterait l'école.
Après, les questions... Pardon.
Moi, juste, j'avais envie d'affirmer, en fait, notre anormalité. De la revendiquer.
Moi de même, hein. C'est bien ce que je viens de dire.
Oui, j'entends, mais du coup je rebondis. Mais ça me permet de le dire. Mmh. On ne cherche pas à faire comme tout le monde. Et on pense même que pour construire un monde qui soit un peu différent, c'est bien d'instruire nos enfants de manière un peu différente. On voit bien qu'il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui ne se passent pas exactement de manière optimale, on va dire, dans le monde. Et on pense que ce n'est pas en reproduisant tout le temps les mêmes dogmes, schémas, qu'on va faire quelque chose de différent. Donc nous, ce qu'on pense important, c'est que... Tout à l'heure, je parlais de laïcité éducative, mais j'ai aussi parlé de biodiversité éducative. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est important que des enfants aillent à l'école, que d'autres n'y aillent pas, que certains soient instruits d'une façon, et d'autres. Et vous parlez de modèles et de mimétisme, et je vous rejoins là-dessus, et c'est super important que justement les enfants n'aient pas tous le même modèle en tête, la même façon de penser. À l'école, on a tendance à dire que c'est mieux si on est rangé par âge. Bon, bah, dans l'instruction famille, en général, on dit non, c'est mieux si les enfants peuvent côtoyer de tous âges, voire des adultes. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est bien qu'il y ait les deux. Parce que si on veut construire un monde différent, il faut qu'il y ait une diversité des approches qui fasse que celles qui fonctionnent bien demain pour... innover, pour reprendre un mot un peu à la mode, eh bien, émerge. Et je reviens sur le fait que chacun prenne le risque de se tromper, mais qu'on puisse multiplier les initiatives.
En tout cas, ce qui est important, et quand vous parlez de réalité décalée en matière d'école à la maison, de modifier ce qu'est autrui par cet effet miroir et qui, du coup, va biaiser un petit peu le développement, Moi, ça me fait penser à cette idée qu'on essaye de faire rentrer tout le monde dans le même moule, et y compris tous les enfants dans le même moule éducatif. Et moi, je trouve ça hyper problématique, en fait, parce que Jalil parlait de biodiversité éducative, et à l'inverse, on peut parler de monoculture éducative. On sait que la monoculture, ça peut poser problème, quoi. La diversité dans tous les domaines de la société, c'est source de richesse. Et donc, pourquoi là, nous supprimer une liberté qui est source de diversité, qui est en même temps une sorte de laboratoire d'innovation pédagogique pour l'éducation nationale, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a aussi des choses qui sont remontées, qui viennent de l'école à la maison et qui arrivent au sein de l'éducation nationale, parce qu'on fait des choses différentes, qui ne sont pas dans le même moule. Et donc, du coup, cette diversité, elle est fondamentale. Et pour des raisons, on a dérivé par rapport à la thématique de départ qui était le séparatisme. Pour des raisons de séparatisme, on veut faire rentrer tout le monde dans le même moule, ce qui n'a pas de sens, ce qui est vraiment contraire aux besoins d'une société.
Patrick Coste.
C'est dommage la tournure là que prend la discussion, au moins pour ce qui me concerne. Parce que si j'ai un goût très prononcé, c'est pour les minorités. Mmh. Donc par conséquent, supposer que j'incarne ici la norme sur laquelle il faudrait recoder tout le monde dans une sorte d'homogénéité de l'ensemble, c'est vraiment pas ce qui fait ma sensibilité et ma pensée.
Merci de le dire.
Donc par conséquent, en plus, ce que j'ai rappelé ici, c'est que de toute façon, il y avait des droits d'éducation à la maison, que dans certaines situations, c'était tout à fait fondé de le préconiser, et de le préconiser en tant que tel. Et ça, je le comprends complètement. Ensuite, qu'il y ait des constructions par rapport à des réalités, et que cette question du choix de l'éducation à la maison ou à l'école, elle pose un certain nombre de problématiques que j'ai essayé de mettre en relief. C'était le rôle qui était le mien par rapport au débat qui est le nôtre.
Peut-être le mot de la fin, vous voyez, il est déjà 9h50, on arrive quasiment à la fin de l'émission.
Très rapidement, je peux deux citations ?
Oui, allez, on va finir là-dessus.
Rapidement, parce qu'on a dit que c'était une liberté qui était importante philosophiquement. Je pense qu'elle est aussi importante démocratiquement. Je voudrais faire deux citations donc. Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. La deuxième, les citoyens doivent pouvoir éduquer leurs propres enfants comme ils le veulent, parce qu'ils en sont responsables et que la transmission éducative est à leur charge. C'est la liberté d'enseignement. Un gouvernement qui embrigade les enfants dans des écoles ou dans des groupes de jeunesse obligatoires est une dictature. C'est le manuel d'instruction civique, CM1, CM2, la librairie des écoles.
Et on finira là-dessus, mais je tiens vraiment à remercier Patrick Coste qui a accepté l'invitation et qui venait un petit peu au contraire de vous, qui avait des idées un petit peu différentes. Alors on précise bien, il est retraité, il ne représente pas l'institution de l'éducation nationale, mais merci à lui d'être venu exprimer son avis.
Et il n'y avait rien de personnel absolument. Non.
Merci beaucoup, monsieur Coste. Merci. Je
vous remercie pour la bonne tenue de dialogue qui n'a pas versé dans la polémique caractéristique, caricaturale, et c'est tant mieux.
Merci, c'est le but de l'émission et on sait que c'est un sujet qui est explosif en tout cas. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Tout de suite, on retrouve Église Actualité, l'agenda de l'Église dans votre région.
Église Actualité, Timothée Rouvière.
Débutons cette Église Actualité avec une visite, celle de l'église abbatiale Saint-Volusien de Foix, aux visiteurs des Journées du Patrimoine. Au programme, accueil de 9h30 à midi et de 14h à 17h30 avec visite libre ou accompagnée de l'église. Ça, ce sera le samedi et le lendemain, le dimanche, accueil de 14h à 17h et visite libre ou accompagnée. À 17h30, l'organiste Christiane Van Gorp proposera un divertissement musical. Information au 06 70 65 84 35. 06 70 65 84 35. Direction le sanctuaire de Garaison, désormais où une soirée vin et fromage est organisée samedi à Montléon-Manioc. Renseignements au 05 62 99 49 80. 05 62 99 49 80. De leur côté, les sœurs bénédictines de l'abbaye Saint-Scolastique de Dourgne accueillent pour des journées chantier vert. Un temps de partage, de joie simple avec des sœurs est proposé. Au programme également jardinage, nettoyage des fossés ou encore coupe du bois dans le parc du monastère. Il est possible de venir simplement l'après-midi, mais l'événement a lieu samedi entre 10h15 et 17h15. Inscription à abbaye@benedictine-dourgne.org. Inscription à abbaye@benedictine-dourgne.org. Et pour clôturer cette église actualité, le diocèse de Pamiers organise la messe de rentrée avec bénédiction de tous les écoliers avec leur cartable. Rendez-vous est donné à la cathédrale de Pamiers à 10h30. C'est la fin de cette église actualité. Rendez-vous demain pour un nouvel agenda de l'église dans votre région et de nouvelles actualités. Passez une très belle journée à l'écoute de Radio Présence.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous voulez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible en podcast sur notre site internet radioprésence.com ou sinon vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Rendez-vous lundi pour une nouvelle émission. Merci encore à mes trois invités d'être venus débattre sur cette question de la scolarisation à domicile et je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.